If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Quand on devient parent, on se pose tout plein de questions et nous n'avons pas toujours la possibilité de les poser à des personnes de confiance. Avec ce podcast, je vous propose que l'on se retrouve chaque semaine pour vous partager les réponses que je pose en tant que parent à des professionnels. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur une plateforme d'écoute comme Echo, E-E-K-O, Spotify ou encore Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires pour dire pourquoi vous aimez ce podcast et partagez-le sur les réseaux sociaux @parentsinformés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Pour ce 12e épisode, je reçois Maëlys Lelevreur, éducatrice de jeunes enfants et éducatrice Montessori. Après avoir dirigé une crèche pendant de très nombreuses années, elle a créé My Little Coaching pour accompagner les jeunes et futurs parents personnellement, mais également lors de conférences ou de permanences parentalité au sein des entreprises. Dans cet épisode, elle va nous aider à comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le corps de nos enfants pendant la période que l'on appelle le « terrible tout ». Nous aborderons comment poser les interdits et les règles avec bienveillance et de manière ludique. Nous verrons comment leur apprendre à gérer la colère et l'importance du partage de nos émotions d'adultes avec eux. Enfin, Maëlys nous donnera des astuces pour accompagner au mieux les moments délicats que peuvent être la préparation du matin, les repas, les couchers, le supermarché ou le bain. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Maëlys, merci de venir participer au podcast. Avec toi, on va parler d'un sujet hyper sensible qu'est le terrible tout. Mais ouais. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux d'abord me présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu as fait dans tes vies antérieures aussi, parce que je pense que c'est hyper important pour les gens qui vont nous écouter.
D'accord, bonjour Charline, merci de m'inviter sur ton podcast. Donc moi je suis Maëlys Lelevreur, je suis éducatrice de jeunes enfants à la base, puis éducatrice Montessori, et j'ai travaillé en crèche pendant plus de 15 ans, dont 11 ans de direction à peu près. Et j'ai arrêté juste avant le confinement pour me lancer dans les conférences en entreprise et le coaching un peu plus de parents en particulier. Donc voilà, moi j'ai pas une passion pour le tout petit, mais je pense que je comprends mieux les moins de 4 ans que les adultes. Je comprends mieux leur façon de penser, de faire. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était vraiment d'aider un peu les adultes à mieux comprendre ces enfants qui sont notre futur à tous et mieux les accompagner dans leur développement.
Ok, Super. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on appelle le terrible tout ? Moi, j'avoue qu'avant d'avoir des enfants, je n'avais jamais entendu ce terme. Et puis, un jour, j'ai compris.
Environ vers les 2 ans, quand tu as vu tes enfants se transformer.
Exactement.
En gros, ce qu'on appelle terrible tout, c'est aux alentours de 2 ans. Heureusement que chaque enfant est différent, comme pour toutes les étapes, comme la crise d'angoisse du 8e mois. Ça peut être plus à 9 à 10 mois. Donc, le terrible tout, c'est un peu cet âge où on ne reconnaît plus forcément son enfant, où son enfant est un peu happé dans les émotions qu'il vit et il n'arrive pas forcément à s'en sortir. Voilà, et il a un peu cette impression de pouvoir décider, de vouloir décider. Il y a tout qui arrive en lui, la frustration, le désir d'être plus grand qu'il ne l'est, la frustration parce qu'il aimerait dire des choses mais qu'il n'a pas encore assez les mots, et puis en même temps que toute cette frustration, il y a aussi en effet toutes les émotions qui arrivent chez lui et qui sont explosives à ce moment-là, et des émotions qui, on le voit, hein, alors on parle souvent des colères, mais toutes les émotions sont la joie aussi, enfin toutes ces émotions sont vraiment très très fortes à ce moment-là. Et c'est ça qu'on appelle la fameuse période du terrible tout qui dure environ 1 an chez l'enfant. Voilà.
Est-ce qu'on sait scientifiquement qu'est-ce qui se passe dans leur corps pour que ça déclenche ça chez eux ? Est-ce que c'est quelque chose qui est hormonal ? Est-ce que c'est un développement du cerveau qui se fait à ce moment-là ?
C'est plutôt le développement, je dirais. Alors, j'ai pas fait de grandes recherches. Après, moi, j'ai fait j'ai fait pas mal d'études sur les neurosciences. Et en effet, on sait que le cerveau de l'enfant n'est pas mature. Donc, on va dire qu'à partir de 8 mois, le tout petit se sépare de sa maman. C'est-à-dire qu'avant 8 mois, il pense qu'il ne fait qu'un avec sa maman. Et à partir de 8 mois, le tout petit va gagner en autonomie. Il va souvent, quelquefois, arrêter l'allaitement. C'est à partir de 8 mois qu'il va commencer à se déplacer. À partir de 10, 11, 12 mois, il va jeter sa cuillère à table pour voir la réaction de papa et maman. On voit bien qu'en fait, tout ça, c'est au fur et à mesure, l'enfant va essayer de forger sa personnalité. Et là, on voit bien que le cerveau de l'enfant, c'est ça. C'est cette espèce d'immaturité. En fait, le cerveau de l'enfant, il est dans l'immédiateté. Nous, le cerveau adulte, on a le recul nécessaire, on a l'empathie pour comprendre l'autre. Le cerveau de l'enfant, il est encore immature là-dessus, et c'est ce qu'on voit et c'est ce qui arrive souvent à cet âge-là. Le cerveau de l'enfant à cet âge-là, il y a une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau limbique, le cerveau des émotions, qui est une partie qui est très importante chez l'enfant. Et il y a aussi une autre partie du cerveau qui est très importante, c'est le cerveau archaïque. Et le cerveau archaïque, c'est le cerveau de la survie, c'est-à-dire c'est le cerveau qu'on partage avec les animaux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un va rentrer dans mon espace, je vais le pousser, je vais le mordre, vous voyez. Ça arrive souvent à cet âge-là aussi. Donc voilà, le cerveau de l'enfant est immature par rapport au nôtre et il le sera qu'à 25 ans, donc bon courage.
On a un peu de marge.
Mais voilà, et donc on voit bien que l'enfant, il n'a pas le recul. Et puis à 2 ans, on va pas se mentir, il n'a pas non plus les mots. Même s'il commence à dire non, à dire plein de choses, c'est difficile pour lui de revenir le soir et de dire « Papa, maman, j'ai passé une journée vraiment très difficile à la crèche. J'ai eu plein de petites altercations avec Paul. Zoé m'a piqué ma tétine et en plus, ma puéricultrice préférée n'était pas là. » Il ne peut pas dire tout ça. Il n'a pas les mots. Et donc, quelquefois, en effet, ça va sortir d'une autre manière. Et voilà, ce fameux terrible tout, c'est un peu tout ça en même temps.
Bon, c'est vrai que quand on est parent, c'est assez compliqué comme période. On se retrouve souvent démunis. Alors moi, la première frustration que j'avais quand j'étais parent, c'était sur comment je fais pour lui poser certaines limites, et en particulier par rapport au danger. C'est-à-dire que maintenant, on sait que c'est mieux de leur laisser un certain nombre d'autonomie, mais il y a quand même des choses qu'on ne peut pas les laisser faire parce que c'est dangereux pour eux. Alors comment on fait pour leur poser ces limites et pour qu'ils comprennent que ces choses-là, elles sont vraiment interdites sans évidemment crier, taper, etc. Parce que souvent, notre réflexe à nous,
c'est au bout de la deuxième, troisième fois de monter le son et de faire comme on peut en fait pour qu'ils comprennent, mais on voit bien que ça marche pas, mais on n'arrive pas à faire autrement. En tout cas, moi, j'arrivais pas à faire autrement, je sais.
Ce qu'il faut, c'est en effet, il faut définir les choses. Ce que tu disais, il y a des choses qui sont de l'ordre de la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il faut que l'enfant comprenne qu'il y a des choses qui sont négociables et des choses qui ne le sont pas. Mettre sa ceinture dans le siège auto, c'est pas négociable. Mettre, donner la main dans la rue quand on habite à Lyon, c'est pas négociable. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Et il y a des choses, c'est nous qui savons pour eux. C'est nous qui savons que notre enfant, si on marche dans la rue de Lyon, s'il voit un ballon arriver sur la route, on sait, nous, parce que nous sommes adultes, que le cerveau de l'enfant va le pousser vers ce ballon. Mais on sait aussi, nous, adultes, qu'il y a des voitures. Donc, c'est bien pour ça qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables, des choses de la sécurité où on doit dire à notre enfant, regarde, là, toi, tu n'as pas le droit de le faire, mais nous non plus. Dans la voiture aussi, on est obligé de mettre sa ceinture. Et dans la rue, normalement, aussi, on doit attendre que le petit bonhomme soit vert pour traverser. Il faut faire comprendre à l'enfant qu'il y a des interdits ou des choses de sécurité qu'on partage. C'est-à-dire que l'enfant croit souvent que nous, on a tous les droits. C'est pas vrai. Il y a des interdits, il y a des choses de sécurité ou alors faire mal aux autres ou se faire mal. C'est interdit et c'est interdit qu'on ait 3 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 60 ans, qu'on habite au Japon ou qu'on habite au fin fond de la Nouvelle-Calédonie, ça le sera toujours. Donc il faut en fait, en tant que parent, il faut définir des choses, il faut définir ces fameux interdits. Si par exemple ton enfant traverse la rue, ton nom, le ton que tu vas employer ne sera absolument pas le même que si ton enfant prend ton portable. D'accord. Parce qu'il y a un danger qui est complètement différent. Donc déjà, l'enfant va l'entendre et va le sentir. Il faut que notre ton, que nos expressions dans la voix, dans le visage, soient aussi différents selon ce qu'on dit. Et il ne faut pas, mais ça c'est évident, si par exemple c'est interdit de ne pas mettre sa ceinture le lendemain, évidemment qu'on ne sait pas, ah ouais non mais aujourd'hui on fait un petit trajet, t'as le droit de ne pas mettre ta ceinture, non.
D'accord.
Ces interdits-là, ils ne sont pas négociables. Un interdit, c'est non négociable parce qu'il en va de la sécurité. Après, il y a autre chose, ça s'appelle les règles. Les règles, ça va être les règles de la maison. Et les règles, elles sont négociables. Les règles, ça va être, tu n'as pas le droit de sauter sur le nouveau fauteuil Louis XIV que l'on a fait refaire, mais tu as le droit de sauter sur le canapé un tout petit peu pourri du salon. Tu n'as pas le droit de te lever 45 fois à table, mais tu as le droit d'aller chercher ton dessert. Les règles, en fait, c'est OK, je connais mon enfant. Je vois qu'il a 2 ans, qu'à 2 ans, il a ce besoin de mouvement et ce besoin de bouger et de faire les choses et de nous montrer qu'il sait faire. Donc, moi, adulte, je vais lui permettre de faire ces choses, de me montrer tout ça, tout en mettant des règles. Parce qu'on ne peut pas tout dans la vie, c'est pas vrai. Dans la vie, on n'a pas le droit de tout faire. Pour moi, c'est une bêtise de dire à son enfant qu'on a le droit d'explorer tout. Bien sûr qu'on a le droit d'explorer et de faire des choses, mais encore une fois, c'est mon avis, ce n'est pas aider son enfant de lui dire, par exemple, qu'il a le droit d'aller quand il veut sur le toboggan. Non, parce qu'un jour, s'il y a 10 personnes devant lui ou 3 personnes, et ben, il va se rendre compte que la vie, c'est ça. La vie en société, c'est aussi attendre. C'est aussi, voilà, tu as le droit d'aller sur le toboggan à l'envers quand il n'y a personne, mais s'il y a un autre copain, tu n'as pas le droit. Vous voyez, ça va être un peu de négo, de choses comme ça. Le fait de les écrire ou de les poser, ça fait que les règles sont toujours les mêmes. Parce que ce fameux fauteuil Louis XIV, s'il n'a pas le droit, mais qu'avec son papa, il a le droit, l'enfant ne va pas comprendre, en fait. L'enfant ne va pas comprendre que les adultes ne soient pas constants dans ce qu'ils disent. Et donc, l'enfant, vu qu'il est dans un âge de test, va être obligé de le refaire une 3e fois, ou on ne va pas se mentir, une 100e fois, pour voir si la réponse du parent est toujours la même.
D'accord, donc c'est pour ça que quand on lui dit non, il va retester pour être sûr que c'est bien ça qu'on lui a dit.
Voilà, ils vont retester pour voir s'il y a une constance et une cohérence dans ce que papa et maman disent. Papa, maman et tous les gens qui sont autour. Moi, quand j'étais directrice de crèche, il y avait un endroit dans le jardin qui était dangereux parce qu'il n'était pas sécurisé et c'était le seul endroit qui me faisait un peu peur. Donc c'était le seul endroit où il n'avait pas le droit d'aller. Il le savait très bien et c'était OK avec tous les adultes de la crèche. Dès qu'il y avait une stagiaire ou une nouvelle embauchée qui arrivait, ils montaient tous dans le jardin, ils allaient tous à cet endroit et ils la regardaient. Et donc moi, après, j'avais compris le truc et avant de faire signer le contrat de la stagiaire ou de l'embauchée, je lui montrais, je lui disais, voilà, la phrase à dire quand ils sont debout là, c'est « les enfants, c'est interdit de monter sur le rebord parce que c'est dangereux ». Et donc, ils étaient debout, ils la regardaient, elle disait la phrase, c'est bon. Ils se sont dit « ok, celle-là est au courant, on redescend et on va pas retester ».
D'accord, ok. Alors, quand on est à la maison, je prends un exemple concret. Hein. Moi, je me souviens très bien, ma fille, elle adorait aller. On avait mis des cache-prises pour les prises qu'on n'utilisait pas. Et son grand jeu, c'était d'aller essayer d'enlever les cache-prises.
Oui.
Donc là, on le dit une fois, deux fois, trois fois, 50 fois. Combien de fois il faut le répéter avant que ce soit intégré ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme geste ou comme, je sais pas, comme action pour que ça soit plus facile pour eux de l'imprégner, ou est-ce qu'il faut juste prendre son mal en patience et le répéter 50 fois ?
En fait, quand elle y allait, déjà, c'est un objet, si tu veux, quelquefois, moi, ce que j'aime bien dire aux parents, c'est de se mettre à la taille de l'enfant. Vous mettez, quel que soit l'âge, soit à quatre pattes dans le salon, ou soit allongé, ou soit assis, et vous regardez autour. Et vous vous dites, OK, là, j'ai 18 mois, j'ai 2 ans. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Qu'est-ce qui a ma portée ? Ah bah les cache-prises, les tiroirs, le vase, la bibliothèque. Je suis en train de regarder chez moi tout ça. Ok, donc là, bah ouais, le tiroir, je vais y aller. La prise, waouh, papa et maman ont mis un cache-prise bleu. Et en plus, quand j'y vais, ça les fait réagir. Génial, double joie, quoi. Ça les fait réagir et en plus, j'ai quelque chose à explorer. Donc go, j'y vais. L'enfant, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus besoin d'explorer son environnement que nous. C'est ce que je dis souvent, là, ce cache-prise, ou alors, encore une fois, je suis en train de regarder chez moi, là, hop, ma bibliothèque hyper jolie. Forcément que s'il y a un enfant qui arrive demain de 22 mois, ou de 2 ans, ou même de 18 mois, il y va direct. Donc, je le sais. Je sais que lui, à son âge, il va avoir besoin, d'explorer ça. Donc, c'est soit je dis, OK, je mets que des livres pour enfants et je sécurise la bibliothèque pour qu'elle ne tombe pas. Ou soit je mets un autre meuble dessus. La plante, c'est soit, bah, OK, j'enlève la plante pendant 6 mois chez moi, ou alors je le laisse explorer, je le laisse trifouiller dedans. Et une fois qu'il l'aura fait, une fois qu'on lui aura laissé l'opportunité d'expérimenter l'objet, il arrêtera. Les enfants, ils ont ce besoin-là. Ils ont un besoin dingue et ils ont une créativité beaucoup plus grande que la nôtre. Il y a un livre qu'il faudrait que tous les parents lisent qui s'appelle « La chaise bleue ». C'est deux animaux qui sont dans le désert et qui trouvent une chaise. Et ils font plein de choses avec cette chaise. Ils se cachent dessus, dessous, ils font une tente, ils s'en servent comme batterie. Bref, ils font plein de choses. Et là, il y a un autre animal qui arrive et qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? Une chaise, c'est fait pour s'asseoir ?» Et là, bah, ils arrêtent de rire et ils se disent « Ah bah super !» Et l'enfant, c'est ça. L'enfant, il a beaucoup, beaucoup plus de créativité que nous. Oui, un tiroir, c'est sympa, mais un tiroir, on peut se mettre dedans. Un tiroir, on peut, pareil, faire de la batterie dedans. On peut ranger, on peut vider, on peut… Ils ont une créativité que nous, adultes, quelquefois, on les freine et on les stoppe dans ça. Et c'est pas… Encore une fois, à leur âge, ils ont ce besoin d'explorer. Donc, ce que je dis souvent à cet âge-là, c'est « OK, revoyons, nous, nos espaces. Essayons de, entre 18 mois et 2 ans et demi, entre 2 et 3 même, les enfants, pour tout ce qui est petits objets, ils ont un peu de mal. Ce qui va le plus leur apporter, justement, c'est comme ils découvrent leur corps, comme ils découvrent la possibilité aussi de leur corps, ça va être le mouvement, ça va être de bouger le plus possible, en effet, d'ouvrir, de fermer les portes, les tiroirs, de mettre par terre les coussins, de monter sur… On le sait. On sait parce qu'on est leurs parents et qu'on connaît, grâce à Maria Montessori et à tous ces grands pédagogues, on connaît leur phase de développement et on sait que celle-ci, c'est la phase du mouvement. Donc, à nous de répondre le mieux possible à ça. Ce n'est pas la peine d'encombrer leur chambre de 10 000 petits objets. Là, vous enlevez tout, vous mettez des bassines, vous mettez des cartons et basta. Ils vont s'amuser beaucoup plus qu'avec avec tout le reste des petits objets, quoi.
D'accord, ok. Donc, en gros, il faut tout adapter pour qu'eux, ils puissent trouver des nouveaux objets d'intérêt qui soient à leur portée et avec lesquels on est ok.
Voilà, et sur cette prise que tu disais, tu vois, peut-être que ta fille y est allée 50 fois. Mais si tu veux, à un moment, c'est vous les adultes, c'est à vous de dire, ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle y va 50 fois. Donc, est-ce que c'est un vrai besoin? Est-ce que c'est un défi? Ce qui est intéressant aussi en tant que parent, c'est toujours prendre du recul, noter les choses. Noter, se dire, ok, cette période est un peu difficile avec ma fille, je trouve que je dis beaucoup le mot non ou je trouve que je me fâche beaucoup. À quel moment je me fâche? Pourquoi je dis non? Et là, on va voir que, ok, on dit non 50 fois pour la prise, on dit non 47 fois pour le fauteuil. Et puis là, tiens, on se rend compte en écoutant le papa que, oh, bah lui, il dit non pour ça alors que nous, on dit oui. Et en fait, rien qu'en prenant du recul sur les noms qu'on dit, on se rend compte que le lendemain, il y en a beaucoup moins. Et que peut-être que c'est notre façon de faire aussi qui va les pousser à. Et on sait bien aujourd'hui que le mot « non », ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Le mot « non », on se demande tous pourquoi c'est le premier qui disent. Bah, juste parce qu'ils l'entendent toute la journée. À partir du moment où ils se déplacent, ils entendent que non, les pauvres.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Par quoi on peut remplacer ça?
Quelquefois, ça va être de dévier leur intérêt, de leur proposer autre chose, de dire bah là, c'est pas possible que tu fasses ça, mais je vais te proposer autre chose. De toute façon, c'est humain, on va pas pouvoir s'arrêter du jour au lendemain de dire non. Mais rien que d'en prendre conscience, de faire une autocritique, de prendre une feuille en notant, en faisant des petits traits, juste à chaque fois qu'on dit non. Par exemple, et bah, le lendemain, on va se dire « Ah ouais, là quand même, hier soir, j'en ai dit énormément, on va changer ça. » Moi, j'ai un exemple tout bête dans mon ancienne crèche. Vous savez, dans les crèches, il y a des petites tables pour les enfants. Ils montaient tous sur les tables. Et un jour, je dis « Bon, bah ok, je vais venir observer, et je ne dis rien à mon équipe. » Et j'ai dû rester une heure et demie, je pense, dans la salle. Et elles ont dit genre 96 fois « Non ». Descendre la table, non, je ne sais pas quoi. Le lendemain, on a fait une réunion d'équipe et je me suis dit, mais on se trompe. On le sait, on sait qu'ils sont dans le mouvement et qu'on sait que là, en plus, ils sont dans la provocation. Mais on sait que s'ils montent aussi souvent, c'est un besoin. C'est parce que, comme par hasard, on a enlevé le toboggan et donc ils n'ont plus rien pour grimper, donc ils montent sur ces tables. Donc le lendemain, on est arrivé, on a dit aux enfants, vous savez quoi? On s'est trompé. Vous avez le droit de monter sur la table. Mais la règle, c'est vous avez le droit d'être sur la table, sauf quand on mange, et vous n'avez pas le droit d'être plus de trois. Mais on n'a jamais eu d'accident après. C'est-à-dire que le premier jour, ils étaient tous sur la table, genre alors vous êtes sûr de vous? Et oui, on était sûr de nous parce qu'on en avait discuté et qu'on s'était rendu compte que c'était notre règle à nous qui n'allait pas avoir leurs besoins. Et j'ai expliqué ça aux parents qui m'ont dit « Mais Maïlis, il va monter sur la table de la maison. » J'ai fait « Mais non, parce que votre table à la maison ne fait pas la même taille, votre table de salle à manger ne fait pas la même taille que la table de la crèche. » Donc non, et puis les règles sont différentes selon les espaces où l'enfant évolue aussi.
Est-ce que ça a un intérêt de faire des affiches pour des tout-petits comme ça ou est-ce qu'ils sont trop petits?
Non, on peut. Moi, j'aime bien les choses assez visuelles. Si on est créatif, il ne faut jamais brider sa créativité pour ça. Il y a un livre qui est sympa qui s'appelle « On ne peut pas » de Jeanne HB. Je ne sais plus exactement, mais on ne peut pas tirer la queue du chat. Mais on peut tirer, je ne sais plus, une pelote de laine. On ne peut pas enlever les lunettes de papa. Mais on peut, voilà. Et alors, l'idée, en fait, dans ce livre, ce que j'aime bien, c'est l'idée. Et je sais que moi, j'ai fait un livre avec les enfants, avec ce même jeu. C'est on ne peut pas monter sur le fauteuil Louis XIV, mais on peut monter sur le canapé. Et ce qu'on avait fait, c'est que les choses qu'on n'avait pas le droit de faire, c'était les poupées qui le faisaient, d'accord, parce qu'on avait fait un vrai livre avec des photos. Donc, c'était les poupées qui faisaient les choses interdites, enfin, qui n'étaient pas permises. Et les enfants qui faisaient ce qu'on avait le droit de faire. On ne peut pas tirer la chaise d'eau 27 fois, mais on peut tirer la chasse d'eau une fois, tu vois. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette idée, c'est que déjà, l'enfant, ils adorent, hein, on ne va pas se mentir, faire des choses comme ça. Ils sont les auteurs de leurs livres, voilà. Et puis, quand vous avez des copains qui viennent à la maison ou les grands-parents qui viennent les garder, bah, les règles de la maison sont les mêmes. D'accord. Si on va chez grand-père et grand-mère, les règles sont peut-être différentes, mais dans la maison, les règles sont sur ce petit livre. Et il faut aussi, dans ces cas-là, faire des règles pour les papas et les mamans, parce que les papas et les mamans aussi ont des règles. Et ça, c'est important.
J'adore cette idée de créer un livre avec les règles de la maison.
Mais ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis, c'est ce livre-là, ce que j'aime bien, c'est la répétition. On sait que les enfants se construisent beaucoup dans la répétition. C'est pour ça que tous les livres pour enfants, si vous regardez, il y a toujours les mêmes phrases. Et là, c'est « on ne peut pas, mais on peut, on ne peut pas, mais… » Et voilà, et puis en plus, c'est vraiment rigolo si vous prenez cette idée de faire les choses interdites avec des poupons ou je ne sais quoi. Les enfants, franchement, ils trouvent ça très, très rigolo. Et ça fait un bon moment en famille. Et puis après, les règles, elles seront beaucoup plus assimilées.
Oui, et puis c'est vrai que les enfants, ils aiment bien relire et relire et re-relire les mêmes livres. Ouais. Donc si c'est les règles de la maison, ce sera aussi plus facile pour eux de les intégrer, je pense, si c'est sous ce format-là.
Et puis, et puis à partir du moment, en fait, les enfants, quand ils te demandent de relire un livre, c'est que le livre leur fait du bien. Quand tu lis un livre, un enfant qui dit encore, c'est pas qu'il veut un autre livre, c'est qu'il veut le même livre. Donc si tu es en train de lui dire, Mon amour ou Va-t'en grand monstre vert ou je ne sais quoi, c'est qu'il est en train de bosser sur cette émotion-là. Va-t'en grand monstre vert, c'est un livre qui fait peur, qui est génial justement pour le terrible tout. Et ce livre est nécessaire parce que c'est bien de travailler sur la peur. Et souvent, il le demande beaucoup, beaucoup de fois de suite parce qu'ils sentent qu'au fur et à mesure, ils arrivent à mieux gérer un peu l'émotion de la peur qui arrive, quoi.
Ok, ça marche. J'ai une question sur la colère et en particulier sur la violence.
Ouais.
J'ai toujours été très surprise de voir que des enfants que l'on n'a jamais violentés soi-même puissent avoir une telle violence exprimée de leur corps. Et je trouve assez difficile de répondre à ça avec calme. Alors comment on fait quand notre enfant, il se met à nous taper ou à nous crier dessus pour répondre avec du calme ?
Alors déjà, il faut prendre de la camomille le matin.
Ouais.
Mais c'est, en effet, c'est difficile. Il faut encore une fois se dire regarde, nous, toutes nos émotions, elles sont comme les enfants. Toutes nos émotions, elles ont besoin de s'exprimer dans notre corps. C'est-à-dire que quand on est triste, on pleure. Quand on a peur, ça se voit, on va suer. Quand on est en colère, on va être crispé, on va crisper nos poings, Quand on est en colère, on peut même, nous, adultes, de temps en temps, taper du pied, ça peut arriver. Donc ça nous arrive. Eux, c'est encore une fois, c'est x10, d'accord ?
D'accord.
Eux, c'est vraiment explosif et en effet, Pendant les colères, si votre enfant, par exemple, tape, s'il est dans vos bras et qu'il tape, on le pose devant soi et on dit « c'est interdit de taper, les bras, c'est fait pour les câlins, je te pose ». Quand ils tapent, les enfants, c'est pas la peine de leur faire tout un laïus sur le fait de faire mal et tout, ils le savent. Ils savent que c'est interdit de taper. À partir de 8-9 mois, ils comprennent la différence entre leur corps et le corps de l'autre. Et à partir de 8-9 mois, c'est hyper important de leur dire « ça c'est mes cheveux, je n'ai pas envie que tu tires dessus. Ça c'est mon corps, ça c'est mon nez, je n'ai pas envie que tu le croques ». Ça, c'est important vraiment de leur signifier cette frontière-là quand ils sont petits. Et en effet, pendant ces fameuses colères, on va poser son enfant. S'il a envie de taper, il peut taper un coussin. Il a le droit de taper un coussin de la colère. Il a le droit de mordre son doudou. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec son doudou. Le doudou, il est là pour accueillir toutes les émotions de l'enfant. Mais il n'a pas le droit de nous taper, nous. Il a le droit de crier parce que ça va être explosif. Ça, on n'y peut rien. Ce qu'il ne faut pas, en effet, c'est nous. Si on leur crie dessus, on leur dit que c'est ça la communication qu'on veut instaurer ensemble. Non, moi, ce que je conseille, alors, il y a plusieurs écoles pour les colères. Il y a des écoles qui disent qu'il faut directement contenir son enfant. Moi, je ne suis pas trop d'accord dans le sens où, justement, je trouve que le corps de l'enfant à ce moment-là est tellement explosif que si on le contient, c'est là où on va se prendre des coups. Enfin, c'est mon avis. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est dire... Raphaël, je vois que tu es en colère, je vais boire un verre d'eau et je reviens te voir après. C'est-à-dire que lui dire « j'ai vu que tu étais en colère, j'ai vu que c'était difficile pour toi », L'enfant, on est bien d'accord qu'au moment de sa colère, il ne vous écoute pas. Il n'est pas vraiment là, il est voilà. Donc, si vous restez, si vous essayez de le calmer, vous lui remettez un peu de carburant et il va continuer. C'est lui dire, j'ai vu que tu étais en colère, je vais boire un verre d'eau et je reviens te voir. Et quand vous revenez le voir, vous lui dites, Raphaël, j'ai l'impression que tu es en colère parce que Joséphine a cassé ta tour. Est-ce que c'est pour ça ? Eh bien, tu sais, quand tu étais en colère, tu as serré les poings très, très fort. Tu as fait les gros yeux et tu es devenu tout rouge. Est-ce que tu veux, Raphaël, qu'on aille devant la glace et qu'on fasse tous les deux, qu'on mime tous les deux la colère ? Donc, hop, comme ça, vous lui apprenez ce qui se passe dans son corps. Vous lui apprenez vraiment à le vivre différemment. Et après, vous lui dites, bah, tu sais quoi ? La prochaine fois, tu pourras dire à ta petite sœur, « Non, Joséphine, je ne veux pas. » Vous voyez, en fait, c'est tout ce qu'il vit là, c'est parce qu'il n'a pas encore les mots. Mais lui, d'accord, déjà de lui expliquer, de lui dire, bah, tu vois là, quand on s'est promené, tu as vu un chien. Et quand tu as vu le chien, tu as arrêté de bouger, tu n'arrivais plus du tout à bouger. Et après, tu t'es tourné et tu as couru. Et bah, quand tu as fait ça, c'est parce que tu avais peur. Et tu sais quoi ? Et bah, moi, je suis ta maman et je fais la même chose quand je vois une souris. Les chiens, ils ne me font pas peur. Mais moi, je n'aime vraiment, vraiment, vraiment pas du tout les souris. Vous voyez ? Hop ! C'est partager toutes les émotions, surtout pendant ce fameux Terrible Two. Partager les émotions. Eux, ils se sentent à Terrible Two et quand ils arrivent à l'école, tous les parents sont là, mais ils ne nous racontent rien. Ok ? Est-ce que vous, vous leur racontez ? Est-ce que vous, quand vous sortez du travail, vous leur racontez ce que vous faites? Ah bah non, bah ouais. Donc déjà, commençons à leur raconter ce qu'on fait dans la journée. Commençons à leur raconter que nous aussi, on est triste, que nous aussi, on a peur, que nous aussi, on est en colère, pour que les enfants puissent aussi ensuite nous livrer les choses et nous emprunter nos mots pour les dire, en fait.
C'est vrai que c'est pas évident parce qu'en tant qu'adulte, on n'a pas forcément, nous, appris à faire ça. Et du coup, ça nous demande aussi un travail d'introspection personnelle pour pouvoir ensuite mettre des mots sur ce qu'eux ressentent. C'est pas simple.
Non, mais ça, c'est sûr. Mais on peut le faire tout simplement avec une idée que moi, j'ai beaucoup, beaucoup conseillé pendant le confinement. Pendant le confinement, voilà, on était confinés. On avait toutes les émotions de tout le monde toute la journée ensemble. On ne pouvait pas aller boire un verre de vin quand on n'en pouvait plus. On ne pouvait pas… bref. Et bien là, c'est hop, ok, on va faire un petit cercle de paroles en famille. Et soit on a une petite poupée, genre une poupée qui s'appelle Pipouette, la poupée des émotions, soit on a des petits émoticônes qu'on a sortis sur Internet et on fait le cercle de paroles. Alors, je suis votre maman, aujourd'hui j'ai été en colère pour ça et aujourd'hui j'étais contente pour ça. Je suis votre papa et aujourd'hui j'étais triste parce que je n'ai pas pu aller jouer au tennis avec mon pote Paul, mais j'étais hyper content parce que quand je suis rentrée, on a eu le temps de faire des cookies tout ensemble. Et toi, Raphaël, quelle est l'émotion ? Qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée ? Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé ? Et tu vois, ta petite sœur, elle n'arrive pas encore à parler, mais est-ce que tu crois qu'elle a vécu quelque chose de bien dans sa journée ? Vous voyez ? Et en fait, ces petites choses-là, vos enfants vont se dire, ah ouais, c'est bon, je suis dans une famille où on peut discuter. On peut discuter et puis, petit à petit, il va réussir encore une fois à prendre vos mots et à passer au-dessus.
Ok, bel exercice à faire en famille.
C'est pas mal et en fait, ça se fait assez naturellement après. Puis alors, il y a plein de parents qui font ça le soir, hein, au moment du coucher, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Mais je trouve ça intéressant de le faire en famille parce que bon, alors c'est peut-être un cliché, mais les hommes sont encore moins à l'aise, entre guillemets, que nous pour exprimer leurs émotions. Donc, je trouve ça sympa de le faire tous ensemble.
Oui, ça permet un apprentissage commun de l'expression de ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, de nos émotions en tant que parents, autant que les enfants, en fait. On le fait tous en même temps, finalement.
Oui, et puis les enfants, il faut pas oublier qu'un enfant, entre, on va dire, de la naissance à 3-4 ans, l'enfant, il est assez égocentré. Je dis pas ça du tout méchamment, mais il pense que, à part eux, dans le monde, on n'a pas d'autres choses à faire. Résultat, ils pensent aussi que quand on est en colère ou quand on pleure, c'est de leur faute. Si on pleure, c'est parce que son fils a cassé un vase il y a 4 jours. Non, en fait, je pleure parce que j'ai vécu ceci, cela. Mais tu vois, je suis triste, mais je suis une adulte et je vais m'occuper de moi. Parce que sinon, ils vont penser que oui, tout est à cause d'eux. Est-ce que tu es en colère parce... Non, ça peut m'arriver d'être en colère parce que tu as fait une bêtise. Mais ça peut aussi m'arriver d'être en colère pour autre chose. Là, je suis en colère parce que j'ai eu un petit accrochage avec la voiture. Et voilà, tu n'y es pour rien du tout et je vais régler ça.
D'accord, ok. Alors, à ce stade-là, il y a des périodes très charnières dans la journée ou dans la semaine. Ouais. Très régulièrement, c'est compliqué.
Ouais.
Je pense le matin, quand il faut se préparer pour aller à la crèche ou à l'école, le repas, l'endormissement, le supermarché, qui est quand même une épreuve pour toute la famille,
ouais.
Quand on doit changer de lieu ou d'activité aussi. Comment on peut accompagner nos enfants dans ces phases de transition où on sait que quasiment systématiquement, ça va mal se passer? En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, c'est que sait que quand il va falloir mettre les chaussures le matin, bon, ben, faut s'y prendre un quart d'heure à l'avance parce qu'on ne va pas y arriver, quoi.
Alors déjà, c'est difficile, mais c'est ne pas anticiper les crises, ne pas toujours avoir peur. Parce que plus on anticipe, plus on va dire à son enfant, là, on va au supermarché, promis, tu ne fais pas de colère. Là, en gros, vous mettez un warning dans la tête de votre enfant, ne pas oublier la colère, ne pas oublier la colère, et pas de problème, go, ça y est. Non. Donc, pour le supermarché, on y reviendra. Mais, par exemple, pour la préparation, en effet, du matin, pour le départ à l'école, soit vous savez qu'il va mettre 5 minutes à mettre ses chaussures et, en effet, bah, on le lève 5 minutes plus tôt, ou soit on lui dit, je sais, Raphaël, que tu aimes mettre tes chaussures tout seul et je sais que tu y arrives. Mais là, ce matin, j'ai une réunion, donc ce matin, ça ne va pas être possible. Mais ce soir, je te promets que tu prendras le temps de me montrer. D'accord ? Là, imaginez, pendant le confinement, ils avaient 45 minutes hein, pour mettre leurs chaussures
oui,
le matin.
Ça.
En fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient, donc on n'en avait rien à faire. Ils pouvaient rester en pyjama, c'était le bonheur. Et puis là, pam, du jour au lendemain, on est déconfiné. Il y a des réunions, il y a l'école à 8h30, sinon à 8h35, elle est fermée. Donc, bah, ils n'ont plus le temps. Alors qu'ils sont à l'âge où ils explorent et où ils s'entraînent. Sacrément difficile. Difficile pour eux. Donc, c'est prendre le temps le week-end, déjà, ok. Là, on a bien vu que tu avais envie de mettre tes chaussures, machin. Et bien, ce week-end, on a un peu de temps, on va s'entraîner à fond là-dessus. Au lieu de faire un train, et ben, on va faire un jeu. On va faire un jeu avec des scratchs, un jeu avec, pour que déjà, l'enfant arrive un peu plus à faire, voyez, ces choses-là. Mais surtout, si ce n'est pas possible le jour J, si, un matin, c'est, ben voilà, là, tu vois, là, c'est ma limite à moi. J'ai une réunion, je n'ai vraiment pas le temps de te laisser mettre tes chaussures tout seul. Mais si tu veux, vraiment, ce soir, on prendra le temps et tu me montreras comment tu fais. Donc ça c'est pour le matin, le repas du midi ou du soir. Pareil, quand on prend un peu de recul, surtout à cet âge-là, les repas de nos enfants, c'est juste des injonctions non-stop. Attention à ton coude, fais attention à ton verre d'eau, ne mets pas tes petits pois dans ta compote. Attention à ta courgette, enlève-la de ton nez. Non mais à un moment, c'est pas très drôle hein, de manger à cet âge-là. Manger, c'est génial. Pourquoi on mange ? On mange parce que demain, on va à un cours de poney. Donc, pour faire un cours de poney, pour bien s'asseoir et bien mettre son petit dos, je ne sais pas quoi, je n'ai jamais fait de poney, mais bon, vous voyez, il faut avoir de la force. Et la force, c'est quand on mange et quand on dort. Donc, vraiment, voilà. Mais rendez votre enfant acteur de son repas, qu'il ne subisse pas son repas et que ça soit pas, encore une fois, un moment d'injonction, mais que ça soit, voilà, moi j'aime beaucoup aux alentours de 18 mois jusqu'à 3-4 ans, j'aime beaucoup l'idée des plateaux repas, où on met entrée, plat, dessert, verre d'eau et pain, et où l'enfant est acteur de son repas. Il mange pour lui et battez-vous pour refaire de ce moment un moment agréable. D'accord ?
Okay.
On parle du manège, on parle de sa journée. Même s'il ne répond pas forcément, on en fait un moment agréable. Ça, déjà, si tous les parents faisaient ça, les repas se passeraient beaucoup mieux. Parce que là, les enfants, ils ont deux leviers pour nous, c'est pas nous embêter parce que c'est pas le bon mot, mais ils ont le repas et le sommeil. Parce que depuis qu'ils sont tout petits, on fait que, regarde, quand tes enfants sont nés, on t'a demandé deux choses. Est-ce qu'ils dorment ? Est-ce qu'ils mangent ? Le reste, on s'en fiche un peu. Ils doivent faire que ça. Donc, eux, ils gardent ça. Hein. Je dois manger et je dois dormir. Donc, apparemment, je dois faire que ça. Donc ils gardent ça et résultat, ils vont nous embêter un tout petit peu plus à ces moments-là parce que en tant que maman, on a besoin, on a la mère nourricière, je ne sais pas d'où ça vient, tout ça, mais on a besoin qu'ils mangent, qu'ils aient des petites cuisses à croquer, tout ça. Et puis le sommeil, voilà, on a besoin qu'ils dorment pour leur bien-être et pour nos soirées.
Et pour
aussi.
Le nôtre aussi.
Voilà, on est bien d'accord. Mais c'est les deux choses où, et c'est pareil, donc le pour le repas, ça va vraiment être un peu plus les rendre acteurs. Et l'endormissement, ça va être, à 2 ans, ça va être, ok, je mets un cadre autour de ton endormissement. Avant de dormir, on fait ça, ça, ça et ça. Et une fois qu'on a fait ça, on est dans son lit. Et c'est pas ça, ça, ça et ça, on est dans son lit et on demande un troisième verre d'eau. Non, parce que souvent, il y a des parents qui me disent « Oui, mais ils nous demandent de faire pipi 5 fois. » Et puis de…
C'est ça, mais, souvent
si
c'est ça,
oui. Mais oui, mais je dis « Mais si, il a fait pipi il y a 5 minutes, vous croyez quoi ?» C'est vrai ou oui, mais on… Non, je dis non, c'est juste une blague. Donc vous dites à votre enfant « Non, tout est bon, tout va bien pour toi, je t'aime, bon dodo. » Vous voyez, il faut en fait… Comme c'est un âge où il va tester, et puis souvent, on ne va pas se mentir, souvent, comme par hasard, l'enfant, il veut maman à l'heure du dodo, ou papa, hein, parce qu'il sait qu'avec l'un des deux, il a quand même 14 histoires, alors qu'avec l'autre, il n'en a que deux. Et puis, au moment du déjeuner, eh ben, il sait que papa va donner plus facilement de dessert, alors que maman, non, elle n'est pas drôle là-dessus. Donc, il va plus demander papa. Vous voyez, c'est pas du tout de la manipulation, c'est juste qu'ils apprennent à nous connaître. Ils apprennent à nous connaître et ils apprennent là-dedans à faire un peu leur marché de ce dont ils ont besoin. Alors que si c'est le repas, ça se passe comme ça. Et l'endormissement, j'en ai parlé avec papa, et l'endormissement, on fait ça, ça, ça et ça. Bien sûr que s'il a mal aux dents, que s'il est malade, bien sûr que là, le coucher va peut-être se faire différemment. Mais le rituel de base, c'est toujours le même. Et c'est parce que ce rituel est toujours le même que l'enfant va pouvoir être apaisé et se laisser aller au sommeil. Nous, nos rituels, toi t'en as un, moi j'en ai un. Mmh. Si par exemple, moi je lis beaucoup, beaucoup, si j'ai pas de livre le soir, bah ouais, non, ça va pas me plaire, alors que c'est débile, mais j'ai besoin, nous, ouais. On a besoin d'avoir des certitudes, d'avoir des rituels, et eux aussi ont ce besoin-là, ils ont vraiment ce besoin à cette heure de l'endormissement.
D'accord.
Et oui, et pour ce que tu disais, oui, sur le supermarché tout à l'heure, mmh. Moi j'ai fait un article qui doit être sur mon blog, mais c'était il y a longtemps, je crois, ça s'appelait justement « La colère du supermarché ». Parce que souvent, en effet, les colères, ça va être au supermarché, dans le métro, chez des potes. Ça va être quand il va y avoir un peu de monde autour, c'est quand même plus sympa.
C'est plus sympa pour tout le monde.
Oui, voilà. Parce que quand il y a du monde autour, papa et maman sont pas les mêmes. Papa et maman changent. Papa et maman vont avoir un peu peur, entre guillemets, du regard de l'autre. Pareil, même chose que le reste. On change, on permet à notre enfant d'être différent. Et en partant au supermarché, on dit « Ok, alors là, Joséphine, tu sais quoi ? En allant au supermarché, on va essayer de chanter une chanson, on va inventer une chanson dans la voiture. Et quand on va arriver au supermarché, on va essayer le plus vite possible de trouver des citrons. Et après, tu sais ce qu'on va faire ? On va essayer très très vite de trouver les céréales que tu aimes pour le petit déjeuner. » Vous voyez ? Vous changez le truc. Vous changez de logiciel, vous changez les habitudes. Et là, bah, vous allez voir que… Alors que si vous dites, alors Joséphine, on est bien d'accord que ce matin, ça, c'est nanana, bah ok, bah maman, j'avais failli oublier que j'étais Joséphine et que je faisais des colères au supermarché. Merci de me l'avoir rappelé, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te décevoir.
Ok.
Donc ça, on essaye en effet de changer nous, en fait. Ne pas oublier que les adultes, c'est nous, hein. Là-dedans, oui. Les adultes, c'est nous, c'est à nous de leur permettre d'être différents, de leur permettre de changer et de nous proposer, entre guillemets, autre chose, quoi.
Et de modifier nos habitudes aussi à nous pour que ça se passe mieux avec eux.
Voilà, et si on arrive le soir en disant « je te préviens, ce soir, dans le bain, tu ne me fais pas le même cirque que d'habitude », Bah ouais, super, j'ai vachement envie d'aller prendre mon bain, quoi. Ben, ça va être un moment de plaisir. Non, non, en fait, non. Et puis quelquefois, on ne se rend pas compte aussi, mais les enfants vont piquer des crises. Quand on regarde, c'est toujours au même moment. Quelquefois, ils vont aussi piquer une petite crise, justement, en sortant du bain. Mais si on prend 10 secondes pour les regarder, vous regardez votre enfant dans le bain. Vous voyez qu'il vient de comprendre comment enlever la perruque du Playmobil. Je dis n'importe quoi. Eh bien, laissez-le 1 minute de plus explorer ça. Laissez-le finir ça et dites-lui, ah oh là là, tu as enlevé ça, si tu veux, je vais dans la cuisine faire ceci et après je viens et on sort du bain.
Oui, parfois on gagne du temps à leur laisser un peu plus de temps pour faire
Bien
quelque
sûr,
chose
bien sûr.
qu'en essayant de les couper et au final ça se passe mal et on y perd 3 fois plus de temps.
Bien sûr, et puis nous, on n'aimerait pas non plus, souvent, on ne leur demande pas leur avis, souvent, c'est les chéris, c'est fini la vidéo, on arrête la vidéo, on va dîner. Bah non, en fait, maman, préviens-moi 3 minutes avant, ou regarde et rends-toi compte qu'il y a encore 4 minutes sur mon épisode. Et moi, si ce soir ton mari arrive et te pique ta tablette alors que tu es en plein milieu d'un friend, bah non, tu n'as pas
Non,
envie
ça
d'aller
va pas le faire,
dîner.
c'est clair.
Tu vois, c'est bah non, donc quelquefois, c'est juste, il faut les prévenir. Là, j'ai bien vu que tu étais en train de faire ta peinture, je te propose de reprendre. D'aller changer ta couche et après tu reprendras ta peinture. Et si on peut attendre 3 minutes, on attend 3 minutes.
Et on les prévient à l'avance, c'est-à-dire à la fin de l'épisode, on arrête. Tu peux regarder la fin de ton épisode et à la fin, on arrête.
Voilà, on les prévient en avance. On peut même mettre une idée de minute, hein, même si évidemment pour eux, 2, 3, 4 minutes, ça veut rien dire.
C'est abstrait, oui.
Mais au fur et à mesure, ça va vouloir dire quelque chose. Et cette temporalité, ça va être, voilà, dans 10 minutes, on s'en va du parc. Dans 5 minutes, on s'en va du parc. Dans 2 minutes, tu vois, une fois que tu auras fini de faire une fois le toboggan, on partira du parc. Et vous allez voir que ça va en effet mieux se passer que si c'est d'un coup d'un seul, on arrête l'activité et on s'en va.
C'est vrai que ça nous demande à nous beaucoup d'adaptation, ce qui est parfois difficile, surtout ben, quand on est fatigué, nous aussi, mais c'est ce qui permet le mieux de passer cette période-là.
Bah, c'est vrai qu'en fait, ça permet. Souvent, en fait, on se rend compte quand on prend du recul que oui, il y a plein de choses où si nous, on changeait un peu, si nous, on adaptait un tout petit peu l'environnement en se disant, OK, bah, on va enlever les plantes pendant 6 mois, c'est pas très grave. On va enlever le vaisselier, bah, on va le vider des deux rangées du dessous parce qu'on sait que notre enfant va y aller. Mais comment dire, on s'enlève beaucoup de non, rien que de non dans la journée, quoi.
Oui, on se facilite la vie pour cette période-là et
Et on facilite la vie de notre enfant parce qu'on répond beaucoup, beaucoup plus à ses besoins. C'est ça aussi, c'est se dire que 2 ans, 3 ans, c'est exploration et mouvement et émotion fois 10. OK,
ouais.
on le sait. C'est nous les adultes, c'est nous qui le savons. Qu'est-ce qu'on fait de ce savoir et comment on peut changer notre environnement et notre façon de faire?
Ok, bah écoute, c'est très clair.
Je suis
Est-ce que
ravie.
tu vois quelque chose à rajouter sur
Non,
cette
non,
période?
j'ai à la limite, j'ai deux, trois des livres à vous conseiller pour cet
Ah bah
âge-là.
oui, vas-y.
Il y a donc, moi j'aime bien à cet âge-là, hein, je parle à partir de 2 ans, j'aime bien les livres qui sont que sur une émotion à la fois, d'accord? Euh,
D'accord.
les, les, les livres comme La couleur des émotions, qui est très connu de Marie Antilogus, là, il est très bien, mais je trouve qu'il est très bien à partir de 3-4 ans.
Un peu plus
Avant, donc
tard,
à 2 ans, il y a, donc j'en ai parlé, Va-t'en, grand monstre vert,
ouais.
de Adam Burley, je crois, qui est sur la peur. Il y a Chute aussi de Sally Greenley, aussi sur la peur. Il y a Chagrin tout doux de Sabine Degreff, qui appréhende, parce qu'on n'aime pas beaucoup ça quand nos enfants sont tristes, mais c'est quand même une réalité et il faut aussi en parler avec eux. Il y a Le livre en colère de Cédric Ramadier, Grosse colère de Mireille Dallancey. Donc, on ne peut pas de Jeanne HB. Et le plus beau livre à ce moment-là, parce que comme c'est un moment où quand même, on va pas se mentir, on se fâche un peu, même si on n'a pas
Oui.
envie de crier, même si on n'a pas, bah, quelquefois, voilà. Il y a un livre qui est le plus beau de tous, qui s'appelle Mon amour,
Oui, qui est génial.
d'Agnès Desbordes et Pauline Martin. Et il est très bien parce que il dit que même s'il fait des bêtises, On l'aime. Que même s'il va à l'école, on l'aime. Que même si on a un petit frère ou une petite sœur, on l'aime. Et à cet âge-là, de temps en temps, ils en doutent. Donc, c'est très, très bien de toujours remettre un petit peu d'ocytocine dans le cœur de nos bébés pour qu'ils se sentent toujours bien.
Bah écoute, ça me semble une belle conclusion. Merci beaucoup.
De rien. Merci à toi de m'avoir invitée.
Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne, afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Je vous mets dans les notes de l'épisode les références de l'ensemble des livres cités par Maëlys. Si vous souhaitez en savoir plus sur les prestations qu'elle propose pour les parents ou les entreprises, vous pouvez consulter son site internet www.mylittlecoaching.fr. Elle y tient également un blog avec de nombreux articles sur la parentalité. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.